la fête du Christ-Roi clôt tout le cycle liturgique. On va commencer une nouvelle année liturgique. Les chrétiens se souhaitent bonne année. L'importance de la fête du Christ-Roi, c'est quelque chose de déterminant. Quand Pie XI a instauré la fête du Christ-Roi, c'était un moment déterminant et on verra les mots avec lesquels qu'il utilise pour appeler tous les chrétiens à célébrer le Christ-Roi. C'était une tradition dans l'Église, bien sûr, depuis très longtemps, que l'on appelle le Christ-Roi de l'univers. Mais là, il a demandé que dans une solennité toute particulière, partout sur toute la terre, on célèbre la royauté du Christ avec une raison bien déterminée, on le verra tout à l'heure. On le sait, pour la vie des saints, le Christ-Roi était quelque chose de déterminant. Saint Thomas d'Aquin meurt avec, dit-on, sur ses lèvres l'invocation du Te Deum où il est dit « Ô toi Jésus, le roi de gloire !»« Ô toi Jésus, le roi de gloire !» Saint Ignace de Loyola, au cœur même de ses exercices, dans la deuxième semaine, appelle tous les chrétiens à faire un choix. Et situe Jésus comme étant le roi de gloire et le roi de l'univers, et dit aux chrétiens, écoutez, vous êtes appelés, voilà, à servir ce roi de gloire. Alors quand on est appelé par un tel roi à le servir, on ne fait pas la fine bouche, voyez-vous. Qu'on soit valet ou commandant-chef de ses armées, peu importe, la gloire, c'est de pouvoir servir ce roi. Alors posez-vous pas de question, est-ce que oui ou non, vous voulez servir ce roi de gloire, hein ? À la place qu'il vous assignera dans son royaume, peu importe la place. L'important, c'est d'être au service de ce roi de gloire. Et Sainte Thérèse d'Avila, chaque fois qu'elle attendait dans le credo la parole « et son règne n'aura pas de fin », cette parole qui avait été ajoutée au concile de Nicée en 325, « cuius regni non erit finis », on dit qu'elle défaillait quand on attendait ces paroles. Elle était sur le point de s'effondrer tellement cette parole la remplissait de joie. « Et ton règne n'aura pas de fin ». Voilà cette seigneurie du Christ sur l'univers entier, au ciel, sur terre, et aux enfers, cette seigneurie du Christ sur tous les âges, parce qu'il a vaincu le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, il a vaincu, il est celui que l'on adore, il est celui qui a vaincu la mort et le péché, cette seigneurie du Christ qui s'étend partout, c'est une source de l'espérance chrétienne. Le fait de proclamer le Christ roi nous assoit, nous établit définitivement et fermement dans l'espérance chrétienne. Pourquoi ? Parce que cette espérance nous assure que le Christ a vaincu, que plus rien ne pourra battre le Christ, ni la mort, ni le péché, ni les enfers, ni les principautés. Rien ne pourra s'élever contre la seigneurie du Christ. Cette seigneurie du Christ nous a ouvert les portes du royaume, le royaume des cieux. La clé a été la croix. Vous voyez bien que immédiatement on est confronté à un signe paradoxal. Dès aujourd'hui, ce roi veut régner dans notre cœur, établir son règne dans notre cœur. Ce règne, il est paix, justice et joie dans l'Esprit Saint. On est vraiment au cœur du mystère chrétien, mais j'aimerais insister non seulement sur l'aspect mystérieux intérieur, personnel de la royauté du Christ, mais aussi sur l'aspect social de la royauté du Christ. Parce que si le pape Pie XI a instauré la fête du Christ-Roi, c'est pour bien montrer les conséquences sociales du règne du Christ aussi. Par rapport à l'Écriture sainte, déjà dans le Saint Testament, on avait prophétisé la venue de ce roi. Dans les psaumes, il était dit « Ton trône, ô Dieu, est dressé pour les siècles des siècles. Le sceptre de ta royauté est un sceptre de droiture. » Dans Daniel, en ses jours se lavera la justice avec l'abondance de la paix. Il étendra son domaine d'une mer à l'autre, d'un fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Isaïe, surtout cet admirable texte, un petit enfant nous est né, un fils nous a été donné. La charge du commandement a été posée sur ses épaules. La charge de la royauté a été posée sur ses épaules. Déjà dans sa nature, mais on verra bien que finalement, le signe de sa royauté, c'est ce qui sera posé un jour sur ses épaules, sa croix. On l'appellera l'admirable conseiller, Dieu le fort, le père des siècles futurs, le prince de la paix, le prince de la paix. Voilà de quelle royauté il s'agit. Son empire s'étendra et jouira d'une paix sans fin. Il s'assiera sur le trône de David et dominera sur son royaume pour l'établir et l'affermir dans la justice et l'équité, maintenant et à jamais. Le fils David règnera, il sera sage, il établira la justice sur la terre, nous dit encore le prophète Jérémie. Tous ces textes sont là pour nous rappeler cette royauté du Christ. Et puis, il y a dans le Nouveau Testament, bien sûr, plusieurs textes qui nous rappellent aussi que le Christ est roi. Quand le Christ lui-même proclamera « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, tout pouvoir ». Or, le pouvoir est bien le signe de la puissance d'un roi. Dans Matthieu, quand Jésus parle de la fin des temps, il dira « Il viendra dans la gloire et le roi dira à ceux qui sont à sa gauche « Venez les bénis de mon Père, à ceux qui sont à sa droite, voilà, allez-vous-en ». Devant Pilate, finalement, eh bien, c'est là qu'est proclamée de manière solennelle la royauté du Christ. Pilate lui dit « Mais alors, tu es roi ?» Et Jésus lui dit « C'est toi qui le dis, je le suis, je suis roi. » Mais ma royauté n'est pas de ce monde. Elle n'est pas de ce monde. Jésus-Christ, c'est le grand prêtre. À l'image de Melchisédek, le grand prêtre, cette figure énigmatique qui, au temps d'Abraham, régnait sur le royaume de Salem. Salem, c'est Jérusalem. Salem, ça veut dire la paix. Yerushalayim, c'est la cité de la paix, les fondements de la paix. Jérusalem, les fondements de la paix, c'est l'expression, la traduction du mot. Yerushalayim.